Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Nouvelles de Russie. Lorsque le régime soviétique s'est effondré, brusquement on a vu réapparaître sur le marché du livre des tas d'œuvres d'écrivains qui à l'époque n'étaient pas autorisés à la publication, qui parfois avaient été complètement oubliés, que les Russes redécouvrent, alors que les Français souvent les découvrent. Par exemple, un écrivain remarquable qui s'appelle Panteleïmon Romanov, qui est né en 1884 et mort en 1938 en URSS, a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle « Des gens sans importance ». Dans ce recueil, je vous propose une des nouvelles qui s'appelle « La robe bleue ». Le malheur arriva au mariage environ 15 jours avant l'intercession de la Vierge, quand tout le blé avait déjà été moissonné, qu'il ne restait plus dans les champs que des pommes de terre pas mûres. La veille du mariage de sa fille, Spyridon se rendit sur son lopin pour voir si le moment n'était pas venu de sortir les pommes de terre. Il resta un moment à regarder tout autour, la main en visière, rentra chez lui abattu. Un mois auparavant, sa fille était venue lui annoncer qu'elle épousait le fils du forgeron, Parfion, un Komsomol. Et qui te donne de l'argent pour ce mariage ? Demanda Spyridon sans regarder sa fille. Quel argent, la dot, il n'en a pas besoin. Pour la cérémonie, nous n'irons pas chez le pope, nous ferons un mariage civil, c'est tout. Sa femme, Aliona, poussa un cri. Quant à Spyridon, il voulut se jeter sur sa fille pour la battre. Mais aussitôt, il se retint et dit avec un jet de renoncement en chance de Satan. Voilà ce que sont les jeunes d'aujourd'hui. Dieu sait pourquoi il fut vexé par-dessus tout d'apprendre que le fiancé ne voulait pas de dot. Qu'il ne saura pas monter un ménage puisqu'il ne connaît pas le prix d'un copec, se dit-il. Il n'exprimait jamais son amour pour sa femme. Lorsque partie en ville seule, elle tardait à rentrer. Il sortait voir si elle arrivait, mais alors, au lieu de regarder vers l'entrée du village, il faisait semblant de regarder autour de lui pour que les gens ne se doutassent pas qu'il s'inquiétait, qu'il l'attendait. Entre eux, il ne parlait que ménage, rien d'autre. À présent, Spyridon devait être taciturne, irritable. Et si quelqu'un lui cherchait noise alors qu'il avait bu, ses yeux brillaient d'un feu sauvage et perdant tout contrôle, il se lançait dans la bagarre. Une fois, bien que sort, il faillit tuer Siomka, le couvreur, un petit gars hirsute. Ce dernier l'avait félicité pour le bon parti et la ligne du parti. Quand ivre, il se lançait dans la bagarre, Aliona se suspendait toujours à ses bras en répétant « Spyridon, mon cœur, arrête. Spyridon, chérie, ne fais pas ça. » Elle l'aura ramené à la maison, puis appliqué de la terre aux hématomes qui s'étaient faits en étant ivre. À mesure que les noces d'Oustinia approchaient, Spyridon devenait plus sombre, plus morose, et peut-être, sans cette noce, le malheur terrible, absurde, ne serait-il pas arrivé. Une joyeuse période de noces commençait au village. Spyridon restait abattu comme assommé. Il lui semblait honteux que le mariage de sa fille se fît sans prêtre. Ce n'était pas un vrai mariage. Le repas de noces avait lieu chez le fiancé. Alion a voulu mettre sa meilleure robe de laine bleue que Spyridon lui avait rapportée de la ville, mais au tout dernier moment, elle changea d'avis, mit une autre robe de fête, plus simple. Les invités commencèrent à se réunir bien avant la nuit. Autrefois, on arrivait de l'église en troïka avec des fleurs en papier dans les queues et les crinières des chevaux, tandis que là, on venait à pied ou en attelage, sans fleurs. Spyridon y vit quelque chose de honteux, de vexant. Il lui semblait qu'on se moquait de lui, de sa fille, qu'on ne prenait pas ce mariage au sérieux. Et lui, qui avait enfilé sa chemise d'apparat, s'était enduit les cheveux de beurre, il se sentait mal à l'aise. comme s'il s'était mis sur son 31 à mauvais escient. L'ISBA se remplissait de monde. C'était pour la plupart de jeunes gens en veston, des filles vêtues à la manière citadine, en robe blanche. Ils riaient, faisaient du grabuge. C'était eux qui commandaient ici, qui étaient les maîtres, tandis que les vieux se tenaient à l'écart, mal à l'aise. Dans l'angle, on avait dressé le table composé de trois tables rapprochées. Tout au long de la nappe, des serviettes brodées posées sur des assiettes. Il y avait des bouteilles de vodka, de liqueur de cerise, de la galantine de volaille. Personne ne vint accueillir Spiridone, rendre hommage au père, comme s'il ne jouait ici aucun rôle. Il se tenait dans la foule des invités, attendant qu'on l'appelât à table, et plus il restait ainsi debout, plus le dépit montait dans son cœur. Durant 20 ans, il avait travaillé, élevé sa fille, pour se retrouver maintenant à son mariage, comme un intrus, comme un mendiant, qu'on invite par pitié. En plus, il recula sans regarder derrière lui, et sa botte atterrit dans l'assiette du chat pleine de lait. L'assiette craqua, se brisa. Un morceau de lait colla sous les pieds de Spiridone. Quelques invités pour faire. Quant à Spiridone, il rougit jusqu'à la nuque. Les vieux maîtres de séance, Parfian et sa femme, Anicia, se bousculaient, maladroits, ne sachant visiblement que faire avec leurs invités, qui s'ennuyaient. Les jeunes, eux, s'étaient réfugiés dans la chambre à coucher, bravant toutes les coutumes. On entendait des voix, des rires. Oustinien, en robe blanche et cheveux en chignon sur la nuque, riait, assis sur le lit à côté de son fiancé. Et à cause de cela, sembla-t-il à Spiridone, il n'avait aucun sérieux, aucune bienséance. Il y avait même une note d'indécence. L'humeur de Spiridone se gâta encore plus lorsqu'il vit qu'il y avait là Sionka le grêlé. Il repoussa les tessons du pied, se penchant vers Spiridone. Il lui glissa dans un souffle. « Toi aussi, on t'a invité ?» Enfin, il eut de l'animation du chahut. Les jeunes, en se bousculant, se précipitèrent hors de la chambre. Et de nouveau, cette audace, les manières délurées de sa fille parut à Spiridone presque indécente. Le jour de son mariage à lui, sa vieille, non seulement n'aurait osé rire, ni lui chuchoter des mots à l'oreille devant tout le monde, mais elle était restée immobile comme pétrifiée. Il lui semblait que Sionka se moquait de lui, assis sur le rebord de la fenêtre. Il se mit à découper le poulet, planta sa fourchette à la verticale. Celle-ci glissa soudain. Son voisin de gauche fut éclaboussé de gelée. De nouveau, Spiridone piqua un phare. « Tu ne t'en sors pas, » lui dit Sionka, assis à l'autre bout de la table. Spiridone avait l'impression qu'ils offensaient sa fille sous ses yeux, que tout le monde le regardait. Soudain, Sionka dit « Allez les gars, embrassez-la tous, elle ne s'est pas mariée à l'église. » Spiridone blêmit. Les paysans voulurent le calmer, il hurlait de plus en plus fort. Tout le monde se tut. Il y avait de l'orage dans l'air, mais personne ne soupçonnait ce qui allait se passer. À cet instant, il se produisit quelque chose. Spiridone se retrouva à côté de Sionka, qui se mit à étrangler. D'une main, Sionka arrachait de sa gorge les mains de Spiridone, de l'autre, il cherchait sur la table un couteau. Voyant son geste, Spiridone, sans se presser, détacha d'une main le couteau qui pendait à sa ceinture sur la chemise. Puis il écrasa Sionka de tout son poids au milieu des voisins qui s'étaient écartés avec horreur. À peine avait-il la main sur ce petit gars qu'Aliona s'accrocha à son bras en criant « Spiridone, ma chérie, arrête-toi, Spiridone, il ne faut pas, l'air bestial !» Il repoussa sa femme de toutes ses forces avec la main qui tenait le couteau. Et Aliona s'affaissa doucement par terre, poussant un léger cri de peur et, sembla-t-il, d'étonnement. Sa robe était déchirée depuis la poitrine jusqu'aux pieds. Sur le sol apparut une flaque de sang sombre qui s'écoulait en un petit ruisseau vers le creux au milieu de la pièce. La poussière qui recouvrait le sol en terre battue flottait et tourbillonnait à sa surface.
ta mère. Skoj, ame skoj, da och, patver, skoj, ame skoj, da skala kolčika. Jedet milenniki, samo na trojčike, doh, jedet labuška.
Je vous propose la suite de la nouvelle de Pantaleon Romanov, La robe bleue. La blessure se révéla mortelle. On transporta Aliona à l'hôpital où elle se mourait lentement. Dans le village, tout le monde plaignait Spiridon, parlant du malheur qui s'était abattu sur lui. Son ménage était resté sans femme. Souvent, les voisins passaient le voir quand il restait seul, la tête baissée. Il lui disait qu'il ne s'en sortirait pas, qu'il faudrait se marier, qu'il n'était pas encore vieux. Le lendemain, en se rendant à l'hôpital, il se demanda comment faire marcher son ménage si elle mourait. Il ne se sentirait pas tout seul. Engager quelqu'un, c'était dommage de dépenser de l'argent. Et si Aliona restait en vie, de toutes les façons, elle resterait infirme, elle n'en pourrait plus travailler. Il serait contraint d'engager quelqu'un parce que, tant qu'elle était en vie, il ne pouvait en épouser une autre. En s'approchant de l'hôpital, il imagina que l'infirmière apparaîtrait en lui disant « Dieu merci, ta vieille restera en vie, seulement il faudra que tu la prennes à la maison, que tu engages une voisine pour s'occuper d'elle. Dieu t'envoie cette épreuve. » Abattu par ses réflexions, il entra dans le couloir, s'arrêta près de la porte, comme attendant le verdict, timide, la chapka à la main. En voyant Spiridon, l'infirmière se leva d'une petite table blanche peinte à l'huile. « Alors, dit-elle, Spiridon cligna des yeux, son cœur défaillit, de la sueur froide perla sur son front. Il essuya même avec sa chapka. « Que faire ? Il faut porter sa croix, dit l'infirmière. » Elle est décédée cette nuit. Elle est là-bas. On l'a emportée à la morgue. Spiridon laissa échapper malgré lui un soupir de soulagement. Mais à l'idée que sa maison était à présent orpheline, que ne verrait plus jamais sa vieille, en entendant les mots « on l'a emportée », il sentit dans sa gorge la boule bien connue et contre toute attente se mit à sangloter maladroitement comme une bonne femme. Il en eut honte, lui-même. Je vous remercie de m'avoir écouté.